le centenaire du Musée basque et de l'histoire de Bayonne, 1924-2024, un entretien avec Sabine Cazenave, directrice et conservatrice du Musée basque et de l'histoire de Bayonne. Il y a 100 ans était inauguré le Musée basque et de l'histoire de Bayonne. C'était le 2 février 1924. Et pour parler de cet anniversaire, de ce centenaire, nous sommes très heureux d'être accueillis par la conservatrice du Musée basque et de l'histoire de Bayonne, Sabine Cazenave. Bonjour.
Bonjour.
En préparant cette émission, je vous disais que vous nous accueillez un peu dans le sein des seins du Musée basque, parce qu'on n'est pas au Musée basque.
Non, on est à Châteauneuf, on est dans les réserves, en fait. Dans les réserves. On est dans l'administration. Les bureaux et les réserves du Musée basque, oui.
C'est-à-dire toutes les œuvres qui ne sont pas actuellement exposées au musée.
Alors, dans une collection permanente, en général, il y a à peu près 10% des œuvres qui sont exposées. Et donc, là, nous sommes dans la partie qui contient effectivement les réserves.
2 février 1924, comment est né le Musée basque ?
Oh ben là, ça a été très long déjà. Ça a été très long. C'est toujours très difficile d'accoucher d'un musée. D'abord, il faut des volontés, de très bonnes volontés. Donc ici, ce sont les sociétés savantes hein, qui existent toujours, la SSLA notamment, qui est une poignée d'érudits et qui, constatant que sous les coups de butoir de la modernité, on était dans la fin du Second Empire et le début de la Troisième République. Donc en fait, les édiles étaient très inquiets de voir disparaître sous les coups de butoir de la modernité le monde traditionnel. Alors il faut savoir qu'en moins de 20 ans, le train était arrivé à Bayonne, au moment du règne de Napoléon III, et qu'une fois que le train est arrivé, que Génie de Montijo a découvert Biarritz quelque part, et a développé Biarritz, évidemment, il commence à y avoir une fréquentation touristique grandissante et qui ne va cesser de grandir pendant tout le début du 19e, du 20e siècle et puis jusqu'aux années 70 avec des hauts et des bas, mais effectivement, de toutes les manières, on est toujours dans ce développement touristique de la côte basque avec des coups d'arrêt au moment des guerres. Voilà. Et constatant cela, les érudits, finalement, se disent « Oh là là, il faut protéger ce qui fait effectivement l'identité du peuple basque et de la tradition bayonnaise, puisque c'est le premier nom de ce musée. » Et il y a eu plusieurs colloques, dont un colloque qui a eu lieu en 1898, si ma mémoire est bonne, à Saint-Jean-de-Luz. Et à partir de ce colloque, effectivement, les édiles commencent à se dire qu'il serait intéressant, effectivement, de faire un musée. Alors, c'est très à la mode à l'époque. Hein. L'un des premiers, c'est le musée en art latin, qui est né sous l'impulsion du Félibrige et de Frédéric Mistral, en Arles. Mais on voit fleurir en Bretagne, en Corse, en Alsace, comme par hasard dans les confins de la France de l'époque, des musées dits de société. À l'époque, on appelait ça plutôt des musées ethnographiques, des musées dont la vocation, c'est véritablement de garder l'esprit et l'identité des peuples des régions de France, dit-on à l'époque. Voilà. Et le musée basque naît dans cette mouvance-là. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que ça a été quand même très long, hein. Entre 1898, sachant qu'il y a la guerre de 14-18 entre deux, ça prend un certain temps. Et en 1924, c'est vrai que le musée est inauguré, mais il n'est pas terminé, en fait. Son développement va se poursuivre pendant 10 ans, jusqu'en 1934, date à laquelle, effectivement, il y aura une deuxième inauguration. Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui s'est fait facilement, et il a fallu énormément d'engagement à ces érudits et particulièrement au premier conservateur, donc qui était un, c'est étonnant, mais c'est un ancien militaire, et donc il était très organisé, qui s'appelait le commandant Boissel. Donc William Boissel a fait preuve de beaucoup d'opiniâtreté, et donc pour défendre ce projet, dès lors qu'il lui a été confié par les sociétés savantes de développer ce musée. Voilà, donc ça a pris presque 15 ans, en fait, entre la première idée et l'ouverture définitive.
Donc le 2 février 1924, voilà. C'est le centenaire.
C'est le centenaire de la première ouverture. Voilà, de la première ouverture du musée qui n'occupait pas à l'époque toute la maison d'Agourette. Vous voyez, il y avait encore des occupations à la maison d'Agourette. Ils ne vont récupérer finalement l'entièreté de la maison d'Agourette qu'aux alentours des années 28.
Un mot justement sur la maison d'Agourette, oui, qui abrite le musée.
Oui, alors la maison d'Agourette, c'est une des plus belles maisons du quai. C'est une maison très ancienne. D'ailleurs, on regarde, il n'y en a que deux de ce type-là avec une double pente, une maison labourdine très ancienne, une maison de négoce. Il n'y en a que deux dans le quartier. Tout le reste, ce sont des maisons lanières. Donc, vous voyez bien qu'avoir à l'époque une maison aussi vaste sous un toit à deux pentes, en bordure de quai, on voit bien que c'est les maisons les plus anciennes de Bayonne. Parce que Bayonne est en contrainte dans ses remparts, dès lors que le terrain s'est fait rare à l'intérieur des remparts, Bayonne n'a pas pu se développer au-delà des remparts jusqu'à qu'elle soit démilitarisée finalement. Et donc cette maison, c'est une des plus belles maisons du quai et aussi une des plus anciennes. Donc c'est une maison de négoce, elle a été classée monument historique tardivement, mais elle était déjà, lorsqu'elle a été mise à disposition du musée basque par la ville de Bayonne, après un rachat à un négociant, elle était déjà une maison remarquable de ce quai. Voilà. C'est très judicieux comme choix, parce qu'effectivement, ça permet... c'est un musée très visible, d'emblée, au cœur du Petit Bayonne, et c'est un bâtiment de réemploi qui est assez emblématique à la fois de ce qu'est le labour, de ce qu'est la société bayonnaise de négoce au XVIIe, XVIIIe siècle. Et aussi, finalement, c'est une maison traditionnelle en bois, charpente et pierre, une maison cossue déjà, qui atteste bien de la tradition bayonnaise du négoce. Donc, elle a à la fois ce caractère labourdin, ce caractère exceptionnel, et aussi ce caractère maison de ville et de négoce, et donc elle réunissait finalement trois atouts. Vous savez sans doute qu'en 2001, on lui a adjoint deux autres maisons, et qu'aujourd'hui, le musée, on dit la maison d'Agourette, c'est la plus belle des trois, mais il y a aussi un chai qui a été adjoint au bâtiment, ainsi qu'un petit immeuble de rapport qui a permis d'installer dans un monument, à côté d'un monument historique, tout ce qu'un musée moderne a besoin, c'est-à-dire un ascenseur, des courants forts et des courants faibles, qu'on n'aurait pas pu installer dans la maison d'Agourette sans l'abîmer. Voilà.
Dans le courrier de Bayonne du 4 février 1924, on peut lire « Ce n'est pas tout à fait un musée, c'est mieux, c'est une sorte de chez-soi, simple, accueillant, sympathique, où l'on est reçu avec bonne grâce, où l'on s'attarde volontiers, que l'on quitte à regret. » Voilà, voir des objets du quotidien finalement.
Oui, à l'époque c'est tout à fait ça. Alors c'est quelque chose aussi que le musée partage avec d'autres musées de société à l'époque. L'idée c'est de pas figer trop vite effectivement une tradition. C'est de ramener le macrocosme dans le microcosme du musée, mais de rendre les choses les plus vivantes possibles. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez des dioramas à l'époque, c'est-à-dire des reconstitutions de pièces véritables de la maison, qui sont des objets rapportés, mais qui donnent véritablement le sentiment d'être dans une véritable maison. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier à cette époque-là, qu'on a un tout petit peu perdu, nous, et qu'on essaie de retrouver aujourd'hui, puisque en 2001, on a essayé de faire, comme dans d'autres musées, des grands musées de société, mettre un peu les objets sous vitrine, pour des raisons tout à fait, je dirais, légitimes d'ailleurs, hein, souvent. Hein. Mais effectivement, on a moins l'effet diorama qu'il y avait au début. Je ne sais pas si vous avez connu le musée avant sa rénovation, mais c'était effectivement une suite de dioramas. Et on passait de pièce en pièce, ce qui pouvait effectivement donner le sentiment qu'on était chez soi. Mais qu'on était chez soi dans une maison où il y avait à la fois réunis dans un tout petit lieu, enfin dans un lieu relativement petit, tous les meilleurs aspects de ce que l'on pouvait trouver dans la culture basque et dans la tradition bayonnaise. Mais la dimension de maison, effectivement, elle est donnée d'abord par la maison d'Agourat, hein, qui est effectivement une vraie maison, et de dimension raisonnable, par ce bâtiment de réemploi, mais et notamment les escaliers, hein, qui sont remarquables, et monter et descendre de tels escaliers pour se rendre dans les salles d'un musée, c'est se sentir soi, je dirais, monter et descendre les escaliers. On est véritablement totalement acteur de sa visite. C'est pas comme dans un musée contemporain. Bon. Et ça peut effectivement donner le sentiment qu'on est chez soi. Donc je comprends, oui, c'est ce sentiment qu'ont pu avoir les visiteurs. Le sentiment qui a pu être, je dirais, partiellement gommé. Mais aujourd'hui, quand vous parlez avec les visiteurs du musée, ils ont véritablement le sentiment encore de se sentir chez eux. Ils sont étonnés de la grandeur du musée, de la taille du musée. C'est-à-dire que quand ils arrivent, ils ont le sentiment que le musée va être relativement plus petit qu'il n'est en réalité, parce que la maison est profonde, et puis il y a deux autres maisons qui ont été adjointes. Et en plus, effectivement, ce qu'ils disent, c'est que cette façon de se promener en montant et descendant, en déambulant dans des pièces relativement petites, assez peu solennelles, et où effectivement on a le sentiment d'être dans une dimension humaine, peut leur donner encore aujourd'hui le sentiment de se sentir chez eux, oui, dans une maison.
Le centenaire du Musée basque et de l'histoire de Bayonne, 1924-2024, un entretien avec Sabine Cazenave, directrice et conservatrice du Musée basque et de l'histoire de Bayonne. Sabine Cazenave, on n'a pas ici le temps de parler de ces 100 ans qui font la vie du musée basque, mais peut-être un mot quand même sur les conservateurs, les directeurs qui ont fait que ce musée il existe aujourd'hui.
Alors, on va dire qu'on va parler de ceux qui... Alors, ceux du passé, donc William Boissel a été extrêmement important. C'est quelqu'un qui a agi, c'est celui qui est resté le plus longtemps, finalement. Il a traversé deux guerres dans ce musée. Il a réussi, effectivement, à le réouvrir deux fois. C'est quelqu'un qui a été extrêmement opiniâtre, qui n'a pas hésité à demander et à redemander des aides, notamment à l'État, mais à la ville. Il s'est vraiment véritablement mobilisé et il a su mobiliser. Il a su mobiliser aussi la société civile, c'est-à-dire qu'il a beaucoup eu recours à la souscription. Il a beaucoup eu recours à la collecte. Il a beaucoup utilisé la presse pour... c'était quelqu'un qui communiquait beaucoup. Aussi, voilà, la presse écrite, hein, essentiellement, mais il était aussi assez féru de nouvelles technologies, hein, on va dire, pour l'époque, puisqu'il faut savoir que ce musée avait déjà, on le verra dans l'expo, avait déjà le moyen de passer des images, non pas des images animées, mais des images fixes, ce qui, dans un musée, en 1924, est relativement rare. Et dès 1938, je crois, mais après-guerre, juste après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, alors, il demande à l'État de l'aider à collecter du son. Donc c'est vraiment quelqu'un qui serait ami avec vous, hein, aujourd'hui. Hein, Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment quelqu'un à qui on doit rendre les honneurs, bon, aujourd'hui. Ensuite, il a eu un successeur qui s'appelle Monsieur Ituriag, qui n'est pas resté très longtemps, mais qui a eu aussi un rôle important, c'est qu'il a su mettre en œuvre des idées de William Boissel que William Boissel, pour des raisons bonnes ou mauvaises, n'avait pas pu mettre en œuvre, notamment la collecte du son. Il s'est beaucoup investi sur ces questions-là, sur finalement ce qu'on appellerait aujourd'hui le patrimoine immatériel. Voilà. Et puis évidemment, il y a Jean-Henri Tchellard, qui lui était un universitaire et qui lui, évidemment, s'est attaché à faire de notre bibliothèque un véritable centre de ressources pour les études basques. Donc là, on lui doit notre centre de ressources et on lui doit les très beaux legs qui se sont succédés, effectivement, au musée basque. Et puis enfin, il y a Olivier. Qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Hein, donc
Olivier Ribeton.
Olivier Ribeton, voilà, qui lui est historien de l'art. Donc effectivement, vous voyez, ces différents profils de conservateurs donnent des étapes parce que chacun a son tropisme de prédilection, si vous voulez. Donc en fait, ils ont chacun apporté une marque et apporter aussi une dimension au musée. Un musée, c'est souvent la juxtaposition de générations de personnes qui ont des spécialités différentes et qui finalement poursuivent un objectif qui est très historien, qui est très porté sur les objets, qui est très porté sur telle ou telle tradition. Et c'est finalement la richesse de cette collection, c'est la succession des personnes effectivement qui ont conservé ce musée.
Alors juste avant vous, c'était...
C'est Olivier Ribeton et Raphaël. Alors les directeurs ont un rôle un peu différent. On peut être directeur d'un musée et ne pas être conservateur et ça arrive, hein, puisque par exemple William Boissel n'était pas conservateur, ça n'existait pas, il est devenu, hein, il était militaire. Mais on a Rafa aussi, Raphaël Zuleika, qui a amené à ce musée, qui lui était directeur, qui n'était pas conservateur, mais qui était directeur, et qui est toujours d'ailleurs directeur de musée, et qui a beaucoup apporté sur la relation transfrontalière, par exemple. Et je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles on était allé le chercher. Une, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, on pourrait... Voilà. Donc, on parle, on va dire que là, aujourd'hui, on a mis en avant dans l'exposition du centenaire les personnes qui sont retirées de la carrière. On n'a pas mis les personnes qui sont encore en exercice. Donc, Rafa est en exercice, donc on n'a pas mis en exergue la personnalité de Rafa. Il a le temps, hein, aussi. On n'a pas mis en exergue la mienne. Voilà, l'idée, c'est quand même de rendre hommage à ceux qui sont passés dans ce musée et qui sont retirés, en fait. Rubilado, comme diraient les Espagnols.
Sabine Cazona, vous avez les deux casquettes, puisque vous êtes directrice et conservateur.
Conservatrice, oui. En fait, oui, ça ne sera peut-être pas toujours comme ça. En tout cas, moi, je milite pour que, en fait, le directeur soit aussi conservateur, au sens, il peut ne pas avoir le titre, c'est pas, enfin comment dire, il peut ne pas, il faut qu'il ait un intérêt pour les objets, en tout cas. Vous savez, c'est important quand même d'avoir un intérêt quand on travaille dans un musée pour les collections. Vous ne pouvez pas être détaché totalement des collections parce qu'il vous appartient de les conserver. C'est ça, hein, être un conservateur. Voilà. Et ce n'est pas seulement, effectivement, détenir un titre. Ce n'est pas seulement être historien de l'art. C'est être en capacité de conserver les objets longtemps. Voilà. Et pour ça, il faut aimer ça, quand même, aussi. Voilà. Donc, je dirais que si le directeur n'est pas conservateur, il peut avoir la tentation aussi de ne pas s'intéresser aux objets. Il peut tout à fait, aujourd'hui, se dire qu'il va faire des expos et ne va pas se préoccuper de la conservation des objets. Et ça, ce serait dangereux pour un musée comme le nôtre particulièrement, qui contient à peu près 80 000 objets. Et ces objets ils doivent être étudiés, ils doivent être conservés, ils doivent faire l'objet de conservation préventive pour pouvoir être conservés pour le futur.
Le centenaire du Musée basque et de l'histoire de Bayonne, 1924-2024, un entretien avec Sabine Cazenave, directrice et conservatrice du Musée basque et de l'histoire de Bayonne. Parlons du Musée basque et de l'histoire de Bayonne aujourd'hui,
oui.
Parce que c'est une équipe, le Musée basque.
Ah, tout à fait, oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien vous êtes à travailler au Musée basque? Alors, combien d'objets vous conservez? Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le panorama?
Alors, c'est un musée qui concerne environ 80 000 items, on va dire. On n'est pas tout à fait sûr parce qu'on fait ce qu'on appelle un inventaire et on fait ce qu'on appelle un récollement. Donc, il y a des objets qui sont rentrés il y a longtemps, qui peuvent ne pas avoir été portés à l'inventaire ou qui peuvent ne pas être récollés. Ils n'en font pas moins partie de la collection et on a un devoir vis-à-vis d'eux. Donc, voilà. Donc, nous sommes 21, mais 21 pour tout faire fonctionner, ce qui est une petite équipe. On est à peu près, on va dire, 8 aux collections, tout compris, c'est-à-dire entre les documentalistes, mon collègue Jacques, qui est attaché de conservation, mais qui est conservateur, et moi-même, qui suis conservatrice et directrice, et effectivement les deux personnes qui s'occupent des collections plus matériellement, qui sont ce qu'on appelle les régisseurs de collections. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'équipe des collections. Ensuite, il faut une administration dans un musée. Hein, aujourd'hui, tout est complexe, il faut faire des devis, il faut faire des marchés, il faut faire des mises en concurrence, il faut avoir des relations avec des prestataires, il faut toujours être aux normes. Et donc, je dirais que l'équipe d'administration du musée, il y a à peu près aussi 6 personnes. Voilà. On va dire une administratrice, un responsable du bâtiment, une secrétaire, assistante, comptable, enfin bon, bref, il faut tout ce qu'il y a dans une petite entreprise pour fonctionner. Il faut un chargé de com, ça, voilà, il faut un chargé de com. Et donc, il faut faire fonctionner aussi l'objet musée ouvert au public. Donc là, vous avez le troisième tiers de l'équipe, en fait, qui sont des personnes qui gèrent à la fois le d'agourette, que vous connaissez bien, et qui permettent l'ouverture du musée 6 jours sur 7, 363, je crois, jours par an. Donc, avec, évidemment, un droit au congé, un droit au repos, voilà. Donc là, vous avez effectivement une rotation de personnes qui sont réparties entre les agents de sécurité et de sûreté, parce que les objets sont des objets précieux, et ce sont des objets... Donc, il y a de la surveillance en salle, et il y a la surveillance aussi, la vigilance de jour et de nuit. Donc, d'objets qui sont quelquefois des unicoms. Hein, c'est-à-dire que maintenant, ils n'ont pas leur double. Bon. Et puis, effectivement, vous avez toutes les personnes qui les accueillent. Et donc là, vous avez un très joli service de médiation pour les publics, donc, dont la responsable est Régine. Et donc, effectivement, là, vous avez toute la dimension accueil, médiation du jeune public, du public famille, du public empêché, du public scolaire, etc. Donc ça, c'est un volet extrêmement important dans un musée. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le premier accueil, c'est-à-dire les personnes qui gèrent la régie de recettes, la régie de dépenses et qui vont gérer le premier accueil à la boutique. Voyez, donc il faut qu'il y ait toutes ces personnes-là pour faire fonctionner un musée. Donc les uns agissent en amont, préparent les expos et font en sorte de les faire vivre jusqu'à qu'elles éclosent. Et puis ensuite, les autres prennent le relais, les font vivre pendant que les premiers sont déjà sur l'exposition suivante, etc. Quoi. C'est un peu dense, quoi. Voilà.
Vous vous ennuyez jamais?
Non, on ne s'ennuie pas, non. Je ne pense pas qu'on s'ennuie, non. Non, non, on ne s'ennuie pas rarement dans un musée. Bon, il y a beaucoup d'endroits où on ne s'ennuie pas, hein, mais non, on ne s'ennuie pas. Puis en plus, c'est un métier où, effectivement, généralement, on n'entre pas tous par hasard. Hein. Voilà, on a choisi aussi. C'est une chance. Si on aime la culture, les objets, les arts, une civilisation en particulier, oui, voilà, on peut choisir de venir travailler au Musée Basque.
Le centenaire du Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne, 1924-2024, un entretien avec Sabine Cazenave, directrice et conservatrice du Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne. Les 100 ans du Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne, comment allez-vous fêter cet anniversaire? Vous avez déjà commencé?
Oui. On a commencé par offrir un chocolat en février parce que effectivement c'est comme ça que avaient été accueillis les premiers visiteurs. Voilà, on leur offrait une tasse de chocolat, ce qui est une bonne manière finalement de dire voilà, c'est une tradition bayonnaise, ce qui est une partie du titre du musée. Donc c'était comme ça en 24. Donc Régine a eu l'idée de ponctuer la saison comme ça d'événements qui reprennent les événements qui se sont produits en 1924. Et puis, nous avons donc deux expositions temporaires, là où d'habitude nous en avons deux grandes, alors que d'habitude on en a des grandes et des plus petites. Voilà, donc là on en a fait deux plus grandes, parce que, bon, bah, 100 ans ça se fête quand même. Donc la première, elle est consacrée à l'histoire du musée. En fait, c'est l'histoire du musée dans son siècle, en fait. Parce que vous le savez sans doute, l'histoire des musées n'est jamais synchrone, absolument synchrone avec l'histoire du siècle qui les abrite ou qui les voit naître. Ce qui fait que, par exemple, là, on a jugé bon de présenter des objets qui attestent, par exemple, des années 30, mais qui, à l'époque, n'étaient pas au musée. Parce qu'à l'époque, c'était la période contemporaine. Donc, c'est plutôt une histoire du musée versus une histoire du siècle, ici, au Pays Basque et à Bayonne. Voilà. Donc ça s'appelle 100 ans déjà. On est en train de chercher le sous-titre. Ce serait quelque chose, un musée dans son siècle, quelque chose de ce goût-là. Voilà. Et puis ensuite, il y a une deuxième exposition. Donc celle-ci, elle démarrera le 20 juin. Voilà, si on n'a pas de retard, j'espère que ça va aller. On est à fond. Et puis ensuite, puis en plus, on est très contraint parce que d'habitude, on ouvre plus tard. Mais là, les fêtes de Bayonne sont avancées et les Jeux Olympiques. Donc, c'est un peu compliqué cette année. Et après, on en fait une deuxième après l'été, au 15 octobre, où en principe, là aussi, hein, si tout va bien, on accueille des chefs-d'œuvre invités. En fait, c'est un parcours dans nos collections permanentes. L'autre exposition se poursuivra. Mais on invite des œuvres qui viennent dialoguer, des œuvres plus ou moins importantes, d'autres musées français et d'autres musées de société qui viennent dialoguer avec nos œuvres à nous et montrer que les préoccupations qui étaient celles de nos fondateurs au début du siècle, ce sont des préoccupations qui ont titillé d'autres musées en France et d'autres musées en Europe et d'autres musées transfrontaliers. Cette préoccupation d'essayer de retenir le temps qui s'en va et, on va dire, le meilleur de nos sociétés, quoi. C'est ça, le projet de ce musée, finalement.
Quels sont les projets, justement, pour les années à venir, puisqu'on espère que le musée basque fêtera dans quelques années 150 ans, on n'y sera pas forcément, nous, mais au moins peut-être les 110 ans, quels sont les projets il y a
Alors, on espère effectivement avoir notre extension dans les 10 ans. Voilà, notre deuxième extension, parce que effectivement, on est un peu à l'étroit. Tellement, quand il a été revu en 2001, il a été conçu sans salle d'exposition temporaire, ce musée. Et donc, ça a beaucoup manqué à Olivier, ça a beaucoup manqué à Raphaël, à Jacques. Et donc, pour le coup, il a fallu en 2016, avant mon arrivée, déménager une partie des collections permanentes pour réinstaller des salles d'exposition temporaires. Donc, ça veut dire qu'on est à l'étroit. Ça, alors, donc, on aimerait obtenir un bâtiment supplémentaire pour pouvoir, qui existe dans le quartier, pour pouvoir installer les expositions temporaires et récupérer tout le deuxième niveau pour raconter le XXe siècle. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'histoire, elle continue. Et donc là, aujourd'hui, on est un musée qui, grosso modo, dans son esprit, s'arrête aux années d'après-guerre. Voilà. Or, on est déjà en 30 du siècle suivant. Donc, les années 80, c'est du temps historique aujourd'hui. Or, elles ne sont pas racontées au musée basque, les années 80. Or, le musée basque et le petit Bayonne et Bayonne dans les années 80, je veux dire, il faut le raconter. Enfin, juste, il faut rester dans le temps historique, mais il faut au moins aller de 80 à 2010, au moins. Voilà. Donc, on espère qu'on aura notre extension. C'est ça. Alors, on en parle dans l'exposition du centenaire. La dernière salle est consacrée à ce que nous espérons avoir. Comme ça, effectivement, on le demande quelque part. Voilà.
Le musée basque en Soule.
Alors, le musée basque en Soule, c'est autre chose. C'est une autre dynamique. C'est l'idée, avec la création d'une antenne en Soule et le déménagement du musée de Basse-Navarre dans Bidéac, d'avoir deux autres points d'intérêt pour l'histoire basque dans les deux autres provinces du Pays basque nord. Parce qu'il ne vous a pas échappé que le Pays basque sud a beaucoup de musées, parce que effectivement les fonds européens ont été très 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 bien mobilisés pour ce faire à partir du moment où, je dirais, l'Espagne et le Pays basque sud est rentré dans la zone euro et dans la communauté européenne. Ils ont un gouvernement tout près aussi, deux gouvernements, enfin, et deux, voilà. Et donc c'est très important de se rendre compte qu'il faut quand même pouvoir, nous, équilibrer les choses de ce côté-ci. On ne peut pas parler du Pays basque uniquement du point de vue de Bayonne et du point de vue du Labourd. Il faut parler du Pays basque du point de vue de la Basse-Navarre et du point de vue de la Soule. C'est une évidence. Voilà. Et c'est une façon aussi de ramener certains objets qui ont été ramenés à Bayonne au début en 1924, aussi dans les provinces qui les ont vus partir il y a 100 ans. Vous voyez, parce que ces objets, ils ont été collectés quelquefois en Soule ou en Amicoussé. Donc c'est important de pouvoir faire ce travail. Et puis, c'est un travail de réseau, en fait. C'est un travail de réseau, je pense qu'on va pouvoir imaginer des choses ensemble. On le fait déjà, hein, mais voilà, on s'y prépare en tout cas. Et surtout, même si on nous a construit une autoroute, même si tout le monde vient une fois par an, je sais pas, sur le littoral, on va dire, est-ce que véritablement, il est juste qu'on soit obligé de venir à Bayonne pour avoir une idée de ce qu'est, ce qu'était le Pays basque hier et avant-hier? Et puis, c'est trois points de vue très différents sur notre territoire, qui est certes unique et uni, mais qui a des spécificités. Chaque province a sa spécificité. Toutes les sept provinces ont leurs spécificités. Et donc, je pense qu'il faut quand même pouvoir faire ça. Voilà. Pouvoir avoir deux antennes. Alors, l'une sera véritablement une antenne. L'autre, c'est un musée qui existe. Le musée de Base Navarre existe. Mais on va dire qu'on le met en réseau. On souhaite le mettre en réseau avec les deux autres.
Encore des projets à concrétiser.
Voilà. Encore des projets à concrétiser. Et effectivement, c'est extrêmement important pour nous parce que, encore une fois, c'est une maison. Donc, on est un petit espace. Et donc, il faut pouvoir le développer un petit peu. Voilà.
Le centenaire du Musée basque et de l'histoire de Bayonne, 1924-2024, un entretien avec Sabine Cazenave, directrice et conservatrice du Musée basque et de l'histoire de Bayonne. Pour conclure, Sabine Cazenave, un visiteur se présente au Musée basque de l'histoire de Bayonne en 2024. Oui. Il sait que c'est les 100 ans du Musée basque et il vous demande « Montrez-moi l'objet qui, pour vous, représente le mieux le centenaire du Musée basque. »
C'est extrêmement difficile. Alors là, c'est vraiment extrêmement difficile parce qu'on est, certes un musée d'objets vernaculaires, d'objets d'art et d'œuvres d'art. C'est quand même très difficile d'en choisir un parce qu'il y a tellement d'objets qui sont importants pour l'histoire, important parce qu'ils font preuve d'un génie populaire extraordinaire ou important parce que ce sont des objets d'art ou des œuvres d'art, c'est difficile de choisir. C'est vrai qu'on a dû choisir un visuel. Ce visuel, on l'a choisi, c'est un dessin de Le Tanneur pour le premier bulletin du Musée basque. Et donc, c'est un très beau visuel qui présente un couple de touristes, entre guillemets, très chics, qui viennent visiter le Musée basque dans les années 30. Ce qui est emblématique là, dans cette affiche-là, c'est l'esprit d'une époque, en fait. Et c'est un très beau dessin. Voilà. Mais j'aurais pu choisir un kaiku ou un makila. Voilà. Bon, c'est difficile pour moi de choisir. Il y a beaucoup d'objets que j'aime beaucoup au Musée basque. Et il y a beaucoup d'objets que nous allons sortir des réserves pour le centenaire et qui méritent de faire partie de l'exposition permanente.
Si j'ai bien retenu, 80 000 pièces, oui, objets, tableaux.
On sait qu'on n'a pas tout compté. Alors évidemment, ça peut être une photo, ça peut être un tout petit objet, comme ça peut être une œuvre d'art, si vous voulez. C'est les items, en fait, qu'on compte. Quand vous avez un fonds de photographie comme le nôtre, on sait qu'on n'a pas tout compté encore. Voilà. C'est notre travail aussi de compter. Et croyez-moi, c'est compliqué quand on doit faire aussi des expositions tous les ans. Hein. Voilà, il faut arriver à tout faire en même temps.
On retrouve beaucoup d'informations sur le site internet du Musée basque et de l'histoire de Bayonne. Venez visiter le Musée basque, c'est le centenaire. Quelles sont les heures et les jours d'ouverture?
Alors, le musée, il est ouvert du mardi au dimanche. Il est ouvert en soirée le jeudi soir de 18h à 20h. Voilà. Autrement, on ouvre à 10h et on est ouvert non-stop jusqu'à 18h, sauf le jeudi où on ouvre jusqu'à 20h. Voilà, c'est notre nocturne.
Et puis, il y a le premier dimanche du mois.
Ah oui, alors le premier dimanche du mois, le musée est gratuit pour tous. Voilà. On a une politique tarifaire. Évidemment, votre billet d'entrée, ça nous aide tous. Hein. C'est-à-dire, on ne ferait pas d'expo si les gens ne payaient pas leur entrée. Hein. Ce serait compliqué, je pense. Voilà. Tout coûte cher, ma bonne dame. Voilà, c'est compliqué. Mais par contre, effectivement, vous pouvez, quand vous avez vu une expo, que vous l'avez appréciée, que vous jugez que ça y est, vous avez contribué à notre survie, à notre vie, eh bien, effectivement, vous pouvez venir gratuitement au musée. Vous pouvez revenir. Alors, il y a le premier dimanche du mois et puis il y a aussi ces jeudis soirs où les particuliers peuvent revenir gratuitement au musée de 18h à 20h, tous les jeudis.
Un grand merci, Sabine Cazenave, conservatrice, directrice du Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne, de nous avoir accueillis à l'occasion donc du centenaire du Musée Basque. Le Musée Basque qui ouvrait ses portes à Bayonne le 2 février 1924, il y a tout juste 100 ans. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Le centenaire du Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne, 1924-2024, un entretien avec Sabine Cazenave, directrice et conservatrice du Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne.